bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kaddour Boudjadi, Agnès Hurstel, Daniel Murat.
Ah, bravo,
Daniel Murat. Daniel Murat, Tom Villa.
Bonjour,
ça fait croisement des gauches. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tanguy Bastureau et notre invité, Joey Starr.
Bravo.
On va parler de la route de la soif qui passe sur Viceland. Déjà, comment présenter Viceland, Joey? C'est une chaîne de documentaires.
Qui privilégie le doc, ouais. Ouais, je pense. En plus, ils font des trucs assez pointus. Un peu de tout bord et pour tout le monde, quoi.
Et un peu décalé, hein, un peu.
Enfin, ouais, en fait, non, peut-être pas pour tout le monde, mais ouais, il y a beaucoup de choses décalées, mais pas que, ouais. Ouais.
C'est la deuxième saison de cette série, La Route de la Soif, qui est née de votre passion pour le rhum et pour les voyages, ou c'est une provocation?
Non.
Quelqu'un vous a dit, t'es pas cap
tout de suite.
Non, le côté
non,
t'es pas cap.
C'est une proposition qu'on m'a faite un soir dans mon salon, où, dans un délire un peu éthylique. Et puis un mois après,
forcément, le délire éthylique est toujours
du rhum au départ. Ouais. Et un mois après, un ou deux mois après, on s'est retrouvé à mettre le truc en place et tout ça. Et voilà quoi, ça fait super.
Et ça,
vite,
et ça prend du temps.
Et ça fait.
Ça prend du temps à faire, voyager, dans trois pays.
Il faut imaginer que je ne suis pas à tous les postes, mais quand j'y suis... Ouais, non, c'est bien, ça prend du temps, non. Non, c'est bien, on est bien.
C'était pas que des vacances, non, parce qu'il y a du boulot.
Il y a du boulot, ouais.
Et on va en parler, parce que quand j'ai entendu, moi, la première fois, je me dis, ok, route du Rhum, c'est un...
Route de la soif, pardon.
De l'agneau, si tu préfères.
Soif. Quand il y a l'idée...
C'était une imitation de Joey, ça.
Non,
c'est un glagla un peu, mais je sais pas bien.
Non, c'est un jingle qui vient régulièrement.
Oui, mais je vois très bien, il claque des dents. Mais là, on dirait...
Non,
c'est quand je fais soif.
Et là, tu sens qu'il va aller dans une distillerie, qu'il va quitter le spécialiste.
Il doit être 20h quelque part.
Exactement, c'est l'heure de l'apéro quelque part, c'est vrai.
On va en parler dans quelques instants de ce doc qui est vraiment intéressant, parce qu'encore une fois, ce n'est pas que l'histoire du rhum, ça va plus loin.
Bah ouais.
En fait, juste pour te dire un truc, c'est qu'en fait, là, on a commencé par le rhum, parce que bon, avec ma tête d'Henri Salvador.
Ah, c'est la deuxième saison.
Ouais, c'est la deuxième saison, mais en fait, l'idée, c'est un peu d'aller... En vrai, l'idée, c'est d'aller voir les gens, en fait, c'est d'aller voir on va voir des gens qui ont une histoire à raconter. Bon, par le biais de l'alcool, c'est toujours plus, c'est toujours d'une manière. Mais voilà, il y a toujours une histoire.
C'est ça.
Toujours un cursus à tout ça.
Ouais.
Et en fait, ce qui nous intéresse,
c'est des personnages. Il y a des personnages.
Des personnages, forcément.
Et on comprend ce qui se passe aussi dans la culture du pays. On va en parler en deux secondes, Joey. D'abord, question sur Joey Starr. Si vous le connaissez bien, pour savoir, pour son spectacle Éloquence à l'Assemblée, qu'a-t-il été obligé d'acheter?
Des lunettes.
Ah ouais, d'accord, ok, vous avez bossé.
Ouais, parce que prompteur.
Pourquoi des lunettes?
Prompteur.
Ah oui, pour pouvoir lire, oui, bien sûr. Oui. Je suis surprendre. Oui. Non, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il fallait que je porte des lunettes. Parce que moi, quand j'écris pour moi, j'écris assez gros. Enfin, tu vois, j'ai le truc qui va avec.
Et quand
on a répété, c'est une lecture, quand on a commencé à répéter, j'étais en vis-à-vis les 2-3 premiers jours. J'ai eu l'impression de pas savoir lire, et c'est très affligeant pour quelqu'un de 50 ans. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je porte des lunettes, c'est juste ça, quoi. La lecture à haute voix reste un exercice quand même.
Ça aurait pu durer encore très longtemps, donc l'absence de port de lunettes, c'est ça?
Ça y est, il va recommencer à faire son animateur star.
Qu'est-ce que Joey Starr, justement, peut faire plusieurs fois en une soirée?
On va boire des verres?
Non.
Le tour de Paris?
Non.
Plusieurs fois une soirée?
Ouais, plusieurs fois une soirée.
Alors, je vous préviens tout de suite, mais moi je sais pas de quoi il
s'agit. Se changer?
Non.
Chanter?
C'est pas vestimentaire? Bah, je sais pas, c'est jamais sur un malentendu.
C'est quoi? C'est physique? C'est pas
physique? C'est ouais, c'est physique, ouais.
Dessouler?
Non.
C'est une danse, c'est en lien avec la danse ou au mouvement?
Appeler quelqu'un?
Mix,
sa maman?
Non.
Son fils?
Tu es quelqu'un?
C'est quelque chose qu'on peut tous faire.
Pipi, faire pipi.
Toi, t'es un sacré connard, toi.
Mais non, on le fait qu'une fois, nous, et lui il peut le faire plusieurs fois.
Dire bonjour aux gens,
se brosser les dents,
les saluer,
le soir,
Daniel, on l'appelle
manger.
Le grand chibre malheureux.
C'est ça.
Pardon.
Qui pleure.
Chibre qui pleure de son alcoolique.
Tom, t'as dit quoi, Tom?
Rien.
Il paraît que t'as donné
manger.
Oui, manger, exactement.
Ah, ben oui, mais on s'écoute pas, putain.
Enfin, vous pouvez aller plusieurs fois au restaurant le soir.
Il y a un quart d'heure.
Ouais.
Vous dites que vous êtes très influençable, vous voyez une vache, vous avez envie de la manger.
voilà, enfin, j'ai faim tout court, pas forcément de la manger. Je suis très.
Plusieurs restos en une soirée.
Ça peut se faire, ouais, même dans la journée, ouais, ça peut se faire. Ouais.
D'accord. Okay. Mais qu'est-ce qu'il y a comme bonnes adresses à Paris au-delà de minuit? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a plus que deux.
Ouais, non, mais c'est vrai, c'est très dur.
Le pied de cochon.
Une très bonne,
ouais,
c'est mon frigo. Mon frigo, il est toujours rempli. J'ai un espèce de souci.
C'est quoi ton adresse? On va gagner du temps parce que du coup.
T'inquiète, je suis pas.
Non, mais c'est vrai qu'il est resto d'après spectacle. Walou.
Mais il n'y en a pas beaucoup.
Non, c'est vrai.
Ça, mais moi, après spectacle, j'ai toujours du mal à grailler.
À manger.
Ouais, je suis.
Mais pas manger avant, non plus.
Ah, je mange pas du tout avant, non.
Bah ouais.
Parce que sinon, à mon âge, on a des digestions douloureuses et soporifiques.
Pourquoi André Manoukian avait-il des bleus sur les cuisses quand Joe Estar était arrivé dans le jury de la nouvelle
saison? Il met des petits coups de poing. Parce qu'il rigolait trop, il se tapait les cuisses.
Pas du tout, c'est des trucs qu'il se faisait lui-même, il se lacérait avec son membre à chaque fois qu'il voyait une jeune fille un peu
respirée de
forme. C'est très vrai.
Non, alors oui, il lui tapait sur la cuisse, mais à quel moment?
Pour lui faire signe?
Non.
Pour à quel moment?
Quand
pour qu'il se réveille,
nul,
pour qu'il se réveille.
Pour relâcher la fille?
Non.
Quand c'était nul, pour valider.
Quand c'était bien.
Exactement.
Et voilà. Ouais.
Enfin, quand vous aimiez, enfin, quand vous étiez ému par une interprétation, vous lui.
Ah, moi j'étais essentiellement ému par André. Le reste, voilà quoi.
C'était physique entre vous, en tout cas.
Ouais, ouais. Bon. Il avait ce truc, cette espèce de respiration animale, d'un seul coup, ouais, qui me mettait dans tous mes états.
Hein, ça sent la bête,
André.
Ah, il sent la bête,
sans la bête.
Il est poilu comme un ours. Il sent la bête à mort.
Qu'est-ce qui a étonné le plus Joe Estar dans l'appartement de Béatrice Dalle?
Il n'y avait pas de meubles?
Non.
Pas de fenêtres?
Il y avait des affiches.
Pas de dire des trucs comme ça.
J'ai peur. Il y avait des affiches de
Non, je dois avouer que c'est assez surprenant. Ça aurait étonné n'importe qui.
Animaux empaillés.
Il n'y a pas de plafond.
Sa mère,
des gens empaillés.
Cryogénisée.
Non.
Ah, son une main, ancien un chien. Cerveau, un truc dans de...
Son des chien mort.
Beaucoup, là.
C'est quoi, c'est des sculptures?
Non, mais j'ai accepté Agnès. Non, c'est une histoire de taxidermisme, en fait. Vous êtes trouvé dans un bocal?
Non, en fait, quand je l'ai rencontrée, elle était à fond dans la taxidermie. Donc, elle empaillait des trucs, conservait des choses dans des bocaux.
Des testicules dans le formol.
Des testicules, fœtus, oui, des choses, des trucs sorcières, quoi.
C'est ce que vous avez écrit dans votre bio. Ouais, non, mais ça fait.
Il y avait même un amas d'attelles pour paraplégiques, des trucs comme ça. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, plein de trucs étranges.
Un cabinet de sorcière, curiosité,
quoi. Non, mais quelqu'un qui fait pas semblant, quoi. C'est vraiment un souci.
Que fait souvent Joe Estar lorsqu'il regarde la télé?
Il mange.
Non, arrêtez de le faire manger.
Il est parti.
Non.
Il appelle, il passe des coups de fil.
Il commente.
Exactement.
Qu'est-ce que ça?
Vous parlez tout seul. Vous parlez à la télé.
Ah, mais on je parle avoir. Souvent tout seul. C'est à mon âge, en même temps. Pour plein de raisons, je parle tout seul, mais bien sûr.
Et bon. Bah, faut acheter Google, là, Alexa, les trucs.
Eh bah, justement, de temps en temps, là,
on te répond, c'est ça.
Ok, Didier, j'arrive.
Alors, les épisodes, ça sera à partir de la route de la soif, sur Viceland, à partir de mardi soir, 22h30, jusqu'au 18 décembre, c'est-à-dire pendant 3 semaines avec des multidifs, hein, sur Viceland, c'est le principe, et je crois qu'avec Canal Play aussi, on peut le revoir quand on le souhaite. 3 pays visités, 2 épisodes par pays, Haïti, les Bahamas et enfin Cuba, et à chaque fois un invité, ouais. Comme s'il fallait soit un témoin, soit un guide, parce que d'ailleurs ce sont pas les mêmes genres d'invités. Je pense à Cuba où Ramzi, le pauvre, il est plus
Ramzi,
là pour
c'est
recevoir.
Le plus algérien de tous les Cubains que je connaisse, hein, voilà, c'est son choix. Bon. Non, mais au départ l'idée c'était d'y aller avec quelqu'un qui a un pied là-bas, qui par exemple il y a Michael K. Williams, lui ce qui lui a plu quand il a vu la première saison, il a entendu le mot négropolitain. Mm-hmm. Et comme il est né à Brooklyn et qu'il est bahamien, d'origine bahamienne,
acteur de The Wire,
entre autres, ouais. Voilà. Et donc l'idée lui a plu, quoi, juste d'aller là-bas. Et puis Jimmy Jean-Louis qui est ambassadeur d'Haïti aussi, donc je trouvais ça pas mal d'avoir ce, parce que on va dire que sur la première saison, il y avait mon DJ qui m'accompagnait, mais les fixeurs on les voyait pas. Et là on a des fixeurs qui viennent avec nous. Et
ce qu'on appelle fixeurs sont des personnes qui sur place vous permettent de
qui ont des connexions, qui connaissent
les adresses,
machin, on sait où on va, voilà, l'autochtone les connaît, enfin voilà.
Il y a une grande part donnée à l'histoire, parce que c'est ça aussi qui m'a frappé.
Si c'était pas ça, je pourrais boire des coups chez moi, ce serait la même.
Ouais. Hein. Non, mais c'est
ça sur Instagram,
c'est,
et puis voilà.
C'est
politique. Ouais. C'est politique, c'est engagé.
De toute façon, c'est à partir du moment où on va et on va quelque part et que et qu'il y a ce caractère humain, historique, machin, c'est toujours forcément politique.
Vous êtes documenté avant d'y aller ou c'est sur place que vous vous posez les questions, j'allais dire presque d'instinct?
Non, j'ai une équipe qui bosse en amont, qui me fait des petites synthèses et tout ça. Et après on y va. Sur les interviews, en général, je suis en roue libre. Voilà quoi. Qu'est-ce que c'est les mots de comme garagiste
qui... Non, c'est parce que je pense à l'épisode en Haïti avec Jimmy Jean-Louis, ouais, qui non seulement est là pour être un peu le passeur et puis le mec du coin, et qui en plus doit se livrer aux dégustations de rhum. Et il y a des scènes.
Un grand négro comme ça qui tient. Pas d'alcool, une miette.
C'est ça.
Aucune contenance. Pourtant, le vaisseau, il est large. Hein.
C'est ça. Et il devient...
Ramzi non plus, il tient pas.
Non, mais Ramzi, bon, bah.
C'est une crevette.
Une gambasse.
On va pas faire de racisme à cette heure-ci. Mais Ramzi, non, mais Ramzi, je le savais. Ramzi, on se connaît bien, on se fréquente assez. Je savais que, voilà.
Tu tiendrais pas.
Non, mais quoi qu'il arrive, il a quand même il a cette espèce de pouvoir comique qui est plus fort que lui. Voilà. Et en plus, il était jamais allé à Cuba, donc on s'est fait un petit voyage de noces, lui et moi. Quoi. petite lune de miel, quoi. Voilà. Non. Et puis, mais je connais assez l'animal pour savoir que, voilà, Ramzi, il est comme moi, on est curieux, quoi. On a envie de voir, même si on est un peu turbulent, enfin voilà, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois les historiens, ou en tout cas ceux qui connaissent l'histoire du pays, qui parlent de Haïti, première république démocratique de Noirs, sortie de l'esclavagisme. Ça aussi, c'est une force. Et même, il y a Lionel Trouillot qui analyse tout ce qui s'est passé presque
chaud,
à regret,
Lionel.
Quoi. Ouais.
Il est chaud, Lionel. C'est-à-dire que sous ses faux airs de Yoda, il a une vraie réflexion, parce qu'en plus, contrairement à beaucoup d'Haïtiens, lui, il a pu voyager. Mmh. Il est, c'est un intellectuel, on peut le dire comme ça, quoi. Je sais pas si ça lui plairait qu'on dise ça de lui, mais voilà, quoi. C'est quelqu'un de réfléchi, qui a une vraie lecture de l'endroit, assez acerbe, parce que quelque part un peu juste, parce que quand tu te balades un peu là-bas, tu te rends compte. Je pense que quand on dit d'Haïti que c'est l'endroit le plus pauvre au monde, franchement, tant qu'on n'a pas vu, on sait pas ce que c'est, quoi. Je vais parler de ce qui s'est passé sur les champs. Je pense que le désespoir là qui a été marqué, quand on est devant sa télé, quand on a l'impression de palper quelque chose, en fait on palpe rien, quoi. Bah c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire je crois que nous on est resté 10 jours, on a dû voir 2 feux rouges. On est allé à un endroit, on est parti à 15h, on a dû arriver à 19h, le lendemain on a fait le même trajet en avion, on a mis 14 minutes. C'est pour vous dire comment il n'y a pas d'urbanisme comme dans l'état du pays, quoi. Et puis surtout quand d'un seul coup on le voit d'un point de vue aérien, comment c'est déforesté, parce que les gens, tout à tous les niveaux, il se passe quelque chose, quoi. Et puis après, il y a tout ce truc mémoriel, quand on connaît cette histoire de dette entre la France...
Jusqu'en 53.
Jusqu'en 53.
C'était d'abord une colonie espagnole, après devenue colonie française, que ça fournissait, en fait, l'or qui était le sucre.
C'était une cash-machine, quoi, voilà, comme on le dit, nous. Ouais.
Quand ils sont devenus...
Quand ils ont eu leur indépendance. Donc là, on est en... Pendant plus d'un siècle, Haïti.
1804, l'indépendance. Voilà, voilà. Et ils ont dû payer pendant plus d'un siècle la dette.
Pendant plus d'un siècle, une dette. C'est une dette quand on connaît la situation d'Haïti, que ce soit politique ou autre. Voilà, on se sent pas très bien, quoi.
Et ça s'est marqué dans les prénoms aussi. Il y a une séquence comme ça.
Jimmy Jean-Louis, l'homme aux trois prénoms, comme on l'appelle, quoi. Ouais. Enfin voilà. Non, mais quand on t'explique le principe de ça aussi, c'est.
Est-ce que vous pouvez l'expliquer, parce que c'est hyper intéressant,
alors,
ça.
Alors si je me rappelle bien, c'est
déjà votre propre papa, le prénom de votre père.
Ouais, nous on est en Martinique, faut laisser les gens. Mon père s'appelle Jean Charlemagne. Effectivement,
vous le dites,
son frère s'appelle Manon Rigobert et ainsi de suite. Bon, voilà.
En fait, il y a un prénom et puis un nom.
Non, mais là c'est deux prénoms. Là c'est deux prénoms et on a un nom de famille. Eux, en fait, ils ont un truc où, genre, en fait, l'enfant porte le nom du prénom du père. Et ainsi de suite, comme ça.
Donc, ça donne des trucs, et
ça existe encore. Donc, ce qui sous-entend qu'ils sont pas, il y a des choses.
Donc, il y en a un qui s'appelle Charles de Gaulle. Enfin,
il y en a un qui s'appelle Charles de Gaulle. Bon, mais ça c'est encore une autre histoire parce que sa sœur,
Lucrèce
Borgia, l'autre il s'appelle je sais plus quoi, et puis dans ce coup, il y en a un qui s'appelle Sheila.
Oui.
Je sens qu'elle n'était pas désirée là-bas. Tu vois. Donc voilà. Non, mais c'est.
Ce que je trouve intéressant, c'est à travers juste cette petite anecdote là, ça dessine aussi l'histoire d'un pays. C'est ce que j'ai trouvé très malin.
C'est ce que je disais à tous les niveaux. Ouais. L'histoire de ce pays est dessinée, quoi.
Ouais.
Mais comme je disais,
vous rencontrez même une femme qui regrette la dictature.
Ah ouais, qui l'a pas connue.
Qui l'a pas connue, qui dit
que Trump a bien fait de dire que Haïti était un trou à merde.
Ouais. Ouais, qui parle des Duvaliers,
qui parle de... minute de silence.
Ouais. Ouais.
Voilà, la raison est tombée, quoi. Ouais, voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est le bordel, quoi.
On va resituer. Cette dame est sur une plage. Elle a une espèce de barre de plage.
Elle va plutôt bien, en plus.
Ouais.
C'est ça l'idée.
C'est ça qui est fou. Elle est jeune. Donc, on se dit, il n'y a pas de Roland, comme ça, dictatorial, qui peut revenir de chez elle. Et en discutant avec vous deux, Jimmy et vous, dans la discussion, elle dit, ouais, il a manqué de respect en disant ça, mais je comprends pourquoi il a dit ça. Et en effet, ici, c'est pas bien, et il faudrait que la dictature revienne. Mmh. Et là, c'est...
Ouais, c'est vrai, c'est vertigineux. Ouais.
Et
ouais.
Chaud. Et en même temps, c'est des personnes à qui on donne jamais la parole. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans votre série Doc, c'est que tout d'un coup, on découvre, quand on parle de Lionel Trouillot, on a affaire à ce maître de l'art du bâton, on a affaire à une vraie figure locale qu'on n'entend jamais dans les autres reportages, cette jeune femme aussi, et tout d'un coup, on fait part un truc hyper propre, entre guillemets, hyper acceptable ou politiquement correct.
Merci, en tout cas. Et puis il faut savoir que moi je pense que pour moi l'immigration est une nationalité aujourd'hui. Donc quand j'entends ces gens, je garde ma langue bien au fond de ma bouche, parce que c'est vrai qu'elle va un peu loin, quoi. Et pourtant, les propos qu'elle tient, de ceux qui sont plutôt qu'on les deux pieds dans la merde, c'est assez effarant, quoi, effectivement. Ouais. Bah, le monde est ainsi fait aujourd'hui, hein. Voilà.
Et il y a quand même donc la découverte des distilleries de rhum, notamment l'une des plus célèbres, Barbancourt.
Ouais.
Alors moi j'y connais rien, mais c'est le meilleur rhum au monde, paraît-il.
Ouais, attention, c'est Forbes qui a décidé ça. Moi, je connais pas ces gens, tu vois.
Ouais, vous sortez avec un avis nuancé. Vous dites, il fait partie de mon classement.
Le Barbancourt est très bon, mais quand Forbes classer du vin, les gars, mais qu'ils nous laissent. Voilà, ça n'engage que ce qu'ils racontent, quoi. Non, le Barbancourt, c'est une vraie maison. C'est vrai que ça fait partie des fleurons de l'industrie, tout ça, mais même on pourra dire culturel et tout ça de l'endroit. Mais
sauf que moi,
le meilleur homme, il vient de Martinique. D'ailleurs, on a la OC, ça veut pas rien dire, les gars.
La bouteille vaut une
fortune. On est les seuls à avoir la hausse, pardon.
Vous dites la bouteille vaut une fortune.
Non,
les Haïtiens ne peuvent pas se payer.
Pardon.
Les Haïtiens ne peuvent pas se payer.
Ouais, mais les Haïtiens, dans ce genre d'endroit, quand les gens peuvent pas se payer un truc, il y a ce qu'on appelle le système D. Et donc, en parallèle à ça, on a une autre appellation qui s'appelle le clairin.
C'est ça.
Le rhum blanc. Imaginons, là, on est dans le 15e arrondissement, c'est ça. On va dire, dans cet arrondissement, il y a plus de 500 personnes qui font du rhum dans leur jardin, qui vendent ça, $1 la bouteille d'un litre, machin. Et attention, ça rigole pas, quoi. Le clairin, nous, on allait voir Michel Sajous. Le gars, il est exporté un peu partout. C'est un gars, quand même, qui a fait du génie aux États-Unis, tout ça, qui a arrêté tout ça pour aller continuer l'exploitation familiale, qui est pas un gros truc, mais par contre, les gars, le produit, il est...
Alors, lui, il est artisanal, alors que Barbancourt est semi-industriel, comme dit la jolie guide.
Ouais. Pour faire plaisir, on va dire, c'est semi-agricole, ouais.
Ouais. Et puis, ils ont même un système où ils récupèrent les restes de canne à sucre pour en faire l'énergie, quoi.
Propre
électricité.
Les gars ont les moyens, quoi.
C'est vrai.
Il n'y a pas que, tu vas... Tu vas chez Biel, pareil. Enfin, tout le monde s'accommode et fait les choses comme il faut au possible.
Le doc passe sur Viceland. Ça sera tous les mardis soirs à 22h30 jusqu'au 18 décembre. C'est la saison 2. Il y a 6 épisodes, 2 par soirée. D'ailleurs, quand on a commencé à voir un épisode, on a envie de voir les autres. Tellement il y a du fond. Il y a la forme qui est très sympa. Il y a des super... La réalisation, le montage, la bande-son. C'est bossé. C'est bossé et ça va cartonner.
Évidemment, un gros carton, des paysages magnifiques, de l'alcool, de la bonne humeur, c'est le Club Med, mais sans les JO qui viennent t'emmerder avec la Corée du Club et soirée blanche.
C'est J-O-E-Y. Génial. Hein? T'as J-O-E-Y.
Oui, c'est vrai. Ouais. Donc on part sur des jeux de mots, je note. Donc, gros succès en perspective. Le concept, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, Joe Star part faire le tour des îles pour raconter l'histoire du rhum et des îles où il est fabriqué. Et vous avez réussi à être payé pour voyager et picoler. En plus, on vous paye votre film souvenir. Et en plus, on vous paye. C'est un génie. Alors vous allez me dire, histoire, évidemment, on en parle, sauf que Stéphane Bern, il est rarement à 2 grammes dans les allées du château de Versailles en short. Non, mais c'est rare. C'est con, mais c'est rare.
Tu le connais mal.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai que j'en ai vu des arnaques à télé, mais alors celle-ci, elle est sur les 3 marches du podium en même temps. Et c'est pas le jaloux qui parle, c'est l'aigri, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai. Et encore, quand on voit votre émission, on se dit, bon, vous êtes payé pour partir dans les plus belles îles. Mais c'est vrai que le mec qui fait grand reportage sur TF1 le samedi après-midi et qui se tape la Corrèze et José le fromager bio, il est dégoûté, c'est obligé. Non mais on va être honnête, des émissions de télé sympas à faire, il y en a d'autres. Mais celle-ci, elle est très bien. Bon, moi je pensais à Interville. Mais bon, se faire courser par une vachette pour pas un rond, pour en plus représenter Mont-de-Marsan, la flemme quoi. Non, dans les bonnes arnaques, il y a Turbo. Dominique Chapat, il aime les bagnoles. Toutes les semaines, il essaie des voitures. C'est extraordinaire.
Bon, il les garde pendant une semaine.
Mais il a combien de voitures alors du coup?
Non, mais il les rend.
Non, moi le souci que j'ai avec Dominique Chapat, c'est que j'ai l'impression que toutes les semaines, il est en Andalousie en train d'essayer la dernière Seat Cordoba. Ça, c'est vrai, pas de peau quoi. Non, bonne arnaque. Sinon, il y a enquête exclusive dans les bonnes arnaques, parce qu'au-delà de trouver des produits illicites et des filles tarifées, est-ce qu'on peut quand même repenser deux secondes au fait que Bernard de la Villardière, toutes les semaines, il est envoyé aux quatre coins du monde pour faire un lancement de 2 minutes au début de l'émission et un au revoir de 1 minute à la fin de l'émission. Certes, ça fait du décalage horaire, mais ça fait surtout des miles.
Derrière la réalité, le drame.
La veste sur l'épaule. Non, Stéphane Thébault, le mec de la Maison France 5, là, tu sais, du côté de chez vous, mais en long. Le mec, toute l'année, il passe son temps à aller nous montrer des maisons extraordinaires qu'on pourra jamais avoir. Et dans ces émissions, tu sais, il y a le Marilyn en bleu, vert, rose. Sauf que là, c'est pas le Ikea, c'est le vrai Andy Warhol. non, mais c'est vrai. Dans les autres émissions, arnaque, et touche pas à mon poste. Bonne arnaque. Parce qu'en vrai, tu mets une caméra dans un PMU, c'est à peu près les mêmes débats. Quotidien, très bonne arnaque, quotidien. Si t'as moins de 30 ans, que tu parles anglais et que t'as une chemise en jean, tu peux être chroniqueur. Dans les arnaques, il y a juré de The Voice.
Et Ardisson, non, tu dis rien sur Ardisson, toi.
C'est étrange, dis donc.
Tu bosses pour qui à la télé, sinon?
Parce que dans les bonnes arnaques, il y a The Voice. Non, mais c'est vrai. Bah, tiens, justement, en parlant d'arnaque.
Ça me rappelle cet adage qui dit que la télévision est la lanterne des idiots. Tiens, moi, quand je pense à Ardisson, je pense.
Et vous venez faire la promo de quoi, de Joey, là, ce matin?
Ce matin, de la route de la soif.
Ah oui, qui voilà. Est à la télévision. Alors, après.
Non, à la radio, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu racontes, Dino?
Non, mais après, ce qu'il y a de bien, il y a des gens qui font aussi des émissions de télé et qui font chanter les autres et ils les laissent galérer, même quand il manque des paroles. Non. Et ça, on va pas le. Voilà. Non mais c'est tout honteux. ça pour dire que finalement Joey Star c'est pas la seule arnaque de la télé. Et puis il faut être honnête, tout le monde ne peut pas faire ce que vous faites. Franchement, arriver à tenir des propos cohérents tout en ayant testé 12 remembrés.
Oh, articulé, tu veux dire.
Non mais ouais. Après 3 verres, j'arrive même pas à donner mon adresse au taxi. C'est pour dire. Donc voilà. Si je dis une connerie, il y en a qui sont forts dans le. Il y a question gouvernement à l'Assemblée le mercredi après-midi. Ah, c'est ouais. Pas évident après le repas. Bon, hein. C'est quand même nous qui les avons élus. Donc on a qu'à fermer notre grande gueule.
Merci Tobin. La bande originale,
Maggie, sur France Inter.
Il y a eu deux moments, j'ai l'impression, sur les 6 documentaires, deux moments où j'ai senti un tout petit peu faiblir.
Ah ben, oui, personne n'est parfait. Hein, disons, la perfection n'étant pas de ce bas monde, j'ai ma place. Et de temps en temps, oui. D'ailleurs, c'est quoi, oui, le super ton cœur que je suis, de temps en temps, prends l'eau. faut savoir que on se lève tôt, quand même. On arrive, on a peut-être un ou deux jours de récup pour le voyage et un jour on va dire. Et après on démarre quoi. Et tous les matins on est levé, mais on voyage, on ça. Donc
vous pourriez goûter. Vous n'êtes pas obligé de boire.
Ah non,
non plus.
C'est triché.
Ça n'engage que toi, ce que tu racontes.
Goûter.
Comme disait Evelyne Thomas, c'est mon choix.
C'est chez l'Italien. Chez l'Italien avec sa cave extraordinaire dessous.
Ouais, ouais. Il faut savoir qu'on avait commencé tôt au jour-là et que j'ai pas pu faire ma petite sieste. Enfin voilà. Non mais
faut dire que vous les couchez tous.
Plein de trucs.
Vous les couchez tous de toute façon au jeu.
Enfin, c'est pas une médaille en soi, mais à un moment donné, oui. Non, c'est juste en fait, c'est que j'ai chopé un petit coup de nerf, c'est-à-dire qu'on est quand même on va chez un mec. Voilà, faudra suivre l'émission, mais pour resituer un peu, c'est que les Bahamas sont un cursus de piraterie, de tout ça qui arrive de loin. Et l'endroit où on est, c'est des caves qui ont été faites parce que Nassau est un port. Au départ, un port qui a été sponsorisé par différentes puissances.
Dans un sous-sol qui est fabriqué par des pirates.
Voilà, exactement. Qui est devenu une cave, où le mec entrepose.
Avec des milliers de bouteilles.
Ah ouais, non, mais ça, il rigole pas, le mec.
Et de vin comme
puis,
de rhum, comme de cognac.
Et puis tu reconnais l'escroc au fait qu'il parle quasiment toutes les langues, le mec. Donc là, tu sais que.
Bon, voilà. Qu'il est dans le commerce international.
Exactement. Et dans une zone franche, en plus, tu vois. Et le truc, c'est que.
Et comment il accepte, d'ailleurs, que les caméras viennent
demander aux autres, à mon avis, leur faire une petite
carte Star, la carte Joey Star, ça doit servir là, dire c'est Joey Star qui vient.
Je sais pas si moi j'ai cette aura là que même. Le mec soit. Je sais pas.
Vous, vous présentez comme Didier, vous dites jamais pratiquement Joey Star.
Mais tout le monde sait.
Là, pour le coup, tout le monde. Comme moi quand je vais aux Bahamas, les gens s'en foutent, hein, et c'est cool d'ailleurs. Voilà. Mais non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'après le mec doit se rencarder ou autre. Voilà. Et donc on va voir ce mec et il nous fait goûter des choses et puis moi j'ai l'impression de perdre mon temps, c'est-à-dire qu'en fait
parce que c'est du cognac.
Hein?
Parce qu'il vous fait goûter du cognac.
Non, non, j'adore le cognac. Non, non, j'adore l'Armagnac. Non, mais c'est pas le problème. Bah, je t'explique, c'est
pardon,
que tout.
Joe, dans le rhum, vous dites, non, attends, vous dites si on va passer au rhum, on arrête avec le cognac.
Voilà,
et l'Armagnac.
D'accord. Et ben, donc, on avait déjà chauffé les pneus. Ouais. Et là, quand il nous propose un florilège de rhum, et en fait, c'est tous ces rhums, là, d'aujourd'hui, qui sont un peu tournés vers le marché américain. Ouais, qui sont des blendings, mais c'est pas que ça, c'est vachement sucré, tu vois, c'est le truc qui me fait chier la bite, pardon, pour l'expression.
Non, vous n'aimez pas boire.
Et que moi, en fait,
cette
ce que j'aime.
C'est Vin Delia, j'ai pas.
J'ai pas entendu, pardon.
Fait chier la bite.
Oui, pardon, ouais. Voilà, non, mais tout ça pour dire que on a envie de goûter des vrais trucs. Maintenant, on sait qu'on est allé aux Bahamas, tout en sachant qu'au Bahamas, il n'y a pas de culture. Donc on savait sur quoi on allait tomber.
Il y a pas de culture de la canne à sucre et que
il y a quasiment pas de culture là-bas. Quoi.
La canne à sucre est importée et c'est même un secret industriel parce que quand vous posez la question,
ah ouais, secret putain.
D'où vient la canne à sucre? Non mais le gars
il s'est pris les pieds dans le tapis, ouais. Ouais voilà. Non mais tout ça pour dire que la propale, c'était est-ce qu'on fait la Jamaïque ou bon la Jamaïque, moi je connaissais, c'est un endroit qu'on a un petit peu tous déjà vu. Les Bahamas, on a cette vision vachement idyllique des Bahamas. Et moi je sais, connaissant mon équipe, on n'allait pas là-bas pour montrer des gens qui font yélélé toute la journée.
On a les deux. On a Paradise Island.
Mais t'as vu, ça dure pas longtemps.
Qui est vraiment. Non,
et puis, en avion, on pourra plus y remettre les pieds.
Sur Paradise Island. Mais qui est entre guillemets un piège à touristes.
Ah ben c'est un truc, c'est du carton pâte.
Et après vous passez.
Tout ça pour dire que on savait où on allait pertinemment, mais on va chez un mec quand même qui est une référence, puis référence mondiale en plus, tu vois. Et le mec, il m'a fait, j'ai vraiment dit, je me suis commencé à me faire chier, donc ça m'a énervé. Donc quand je suis énervé, qu'est-ce que je fais? Je bois. Voilà, je mets de l'essence dans le vaisseau. Enfin voilà, donc à un moment donné, on part dans n'importe quoi. Et en fait, on a eu cette conversation. Ouais, est-ce qu'on garde ou pas? Et moi, j'ai dit, mais les gars,
non, ça fait partie du trip. Mais
ouais, voilà.
Il faut juste quand même ramener à sa juste valeur la route de la soif. C'est pas un documentaire de beuverie pendant 6 ans.
Non, justement, si on va dans cet endroit-là, c'est aussi pour raconter le passé historique des Bahamas, enfin de Nassau surtout.
Et actuel.
C'est pour faire. Il y a toujours ce petit rappel. Ouais. Quand on va dans la seule distillerie, c'est pour expliquer aussi que on parle du fait qu'il n'y a pas de culture, que c'est les Hollandais qui ont décrété il y a je sais pas combien de temps qu'on pouvait pas cultiver la terre. Et puis derrière ça a suivi quoi.
Ça c'est dingue. On va en reparler dans quelques instants. Voilà, ça c'est totalement dingue, totalement dingue. On va en reparler dans quelques instants. D'abord voici l'humeur d'Agnès Hurster.
Bonjour. Alors ce matin je voudrais vous parler de Bodyguard. Ouais. Bodyguard. Rien
quoi,
de dire le mot, j'ai les poils.
Non, la série.
Ouais, la série. Ouais. Pas Benalla, la série. Vous avez regardé ou pas encore?
Non. Ouais. Non, moi j'ai regardé, ouais.
C'est donc la nouvelle série anglaise qui mélange attentat et sexe sale. Non, j'y viens justement. Carton énorme en Angleterre depuis sa diffusion fin août sur la BBC. Plus grosse audience depuis Downton Abbey. Et donc c'est arrivé il y a pile un mois en France, sur Netflix. Et tout le monde m'en parle depuis un mois. Alors pourquoi carton? Parce que c'est donc une série qui mélange absolument tout ce qui rend les gens zinzin. C'est-à-dire que les gars, les créateurs, ils sont allés sur Twitter et sur BFM, ils ont pris les 3 trending topics, les trucs récurrents, tu vois, qui excitent les gens, ils en ont fait une série. Donc là, d'abord, on va partir sur une petite base de gros terrorisme. Donc dans le premier épisode, il y a ceinture à explosifs, camion bélier, du sang dans la merco, enfin tout ce qui fait peur aux gens quand tu parles de terrorisme. Ensuite, ouais. On va rajouter du cul, mais toujours en missionnaire, parce que quand même, on s'adresse à des couples de quinca, donc faut pas déconner. Ensuite, tu mets un gars de Game of Thrones, évidemment, en plus de la famille des Stark, c'était nos chouchous dans Game of Thrones, qui couche avec une nana plus âgée. Alors plus âgée, elle a quand même 43 ans maximum, qui est à la fois puissante, indépendante, célibatante, dominante, méchante, mais toujours extrêmement bien maquillée. On va l'appeler Montaigu, comme dans le best-seller de Shakespeare, c'est un bon karma pour les ventes.
Elle s'appelle Montaigu.
Ouais, exactement. Et pour le gars, si on pouvait partir sur une petite ambiance Channing Tatum, Magic Mike et à poil, avec des muscles huilés.
Oh, il est très anglais, le gars.
Il est très anglais, mais il a pas un walp. Il est vraiment...
Il est phosphorescent tellement il est blanc.
Je suis tout à fait d'accord. Et on va appeler tout ça...
On voit au travers.
Je suis hyper d'accord. Mais il est quand même Channing Tatum. Ah ouais.
Je ne comprends pas ce que tu racontes.
Ah oui. Et on va appeler le tout Bodyguard, parce que tout le monde adore que Whitney et Kevin se roulent des pelles, et ils vont croire que c'est la suite. Les gens sont cons. C'est une série qui a donc été conçue pour nous exciter.
Tu traites de con, toi?
Non, les gens
moi.
Qui pensent que c'est
Bodyguard. Moi qui parlais du film.
Mais parce que moi, la première, je dis ça. Ça vient taper partout dans nos cerveaux, ça nous excite, on est comme ça. Ça nous affole, ça nous accroche, ça rend accro. C'est de la catharsis pure. J'étais donc, évidemment... ultra contre, refus total. Tout le monde m'en parlait, mes copines, mon expert comptable, mes collègues, des artistes, tout le monde. Et moi, je disais, non mais attendez les gars, moi j'ai fait des études, hein, donc on m'attrape pas avec du miel hystérique marketé par Netflix, là, le mommy porn, je connais, j'ai du discernement, bah ouais, je suis dans mon discernement, bah ouais, moi je préfère lire un livre, un quoi ? Et puis, dimanche midi, j'ai déjeuné avec mes parents. Je sais pas si vous avez déjà parlé de mes parents.
Oh, si, de ton père.
C'est des malades, c'est des malades. C'est des gens qui s'appellent papa et maman, mais entre eux. Tu vois le délire? Ça va pas du tout, des malades.
Ça va pas, ça. Je fais ça, moi aussi, je trouve ça drôle.
Aïe, aïe, aïe. Et donc, qu'est-ce qu'ils me disent en plein poulet rôti? Mon père me dit, tu n'as pas encore regardé Bodyguard, Yaya? Mais nous, c'est dingue. 33 ans de mariage. Et bam, oui, bah, voilà, je vous donne des petits croustilles. 33 ans de mariage, et bam, Bodyguard nous a refait baiser. Gênance maximale, je vous jure, c'est horrible.
Ton père, il parle comme ça?
Blood clot.
Ouais. Et il enchaîne. Et il dit, c'est vrai que ce petit cliffhanger, saison, dans l'épisode 2 du camion bélier qui vient foncer sur l'école des petits, moi, ça m'a, ça fait 3 ans que j'avais pas adressé la parole à ta mère.
Tu peux témoigner des ébats de tes parents?
Ah, non, merci, bien sûr.
Ouais, oui.
Et donc, mon père me dit, ça fait 3 ans que j'avais pas adressé la parole à ta mère, mais là, c'est vrai que j'avais besoin d'un câlin. Donc, ça me fait réfléchir, je me dis, c'est un peu mignon. En vrai, c'est vrai que les séries, c'est pas forcément un tue-l'amour. On regarde tous des séries au lit. Non. C'est peut-être pas mal. Non.
Moi, j'ai l'air debout.
Finalement, t'es en excitation à deux sur des gens beaux et intenses qui parlent pas ta langue. T'as de l'empathie pour des personnages de fiction, à défaut d'en avoir encore pour ton compagnon. Tu vois des gens qui vivent des trucs de fou, alors que toi, ton climax dans la semaine...
Alors, tu vas voir les mecs qui vivent des trucs de fou aussi. Hein. Ils parlent pas ta langue.
Non, ça c'est sûr. Et tu vois, ton climax de la semaine, c'est à 23h mardi, quand t'avais dû refaire une machine, parce que t'avais oublié l'autre dans la machine de ce matin et que ça puait l'humidité. Alors, bien sûr, ça marche mieux avec certaines séries qu'avec d'autres. Hein. Je suis pas sûre que regarder les replays de Ruquier le samedi soir en couple ait un effet dynamisant sur nos libidos.
Non.
Après tout, qui suis-je pour juger ? Bref, évidemment, j'ai commencé Bodyguard hier à 21h30.
Tu veux dire un truc ?
Je l'ai regardé toute seule parce que j'avais trop peur que mon mec ait envie de ken Channing Tatum. Je suis évidemment complètement addict, j'ai pas dormi de la nuit et j'ai envie de me rouler des pelles à moi-même. Bonne semaine les enfants.
Merci Agnès sur scène.
France Inter, Nagui.
Et Agnès, on te retrouve à partir de ce vendredi au Rond-Point. Ce sera ta première.
Hey. Oui.
Ce sera tous les vendredis et samedis à 18h30.
Oui.
Et tu as ouvert, comme on dit, pour Manu Payette.
Oui, au Casino de Paris ce week-end. C'était fou. J'ai jamais...
Ce week-end, il a joué au Casino de Paris.
Ouais, vendredi et samedi, devant 1500 personnes.
Il a pas d'invitation.
Non, mais je le déteste, là.
Il pourrait pas prévenir. Ah ouais, non, moi aussi, je dis Manu, t'aurais pu prévenir.
C'était fou, c'était trop bien.
Agnès, tu vas pas dire l'inverse non plus.
Non, mais je peux dire que moi, déjà, j'ai vécu un truc de maboule, quoi. Je joue dans des caves.
Des miquettes,
ouais, de ouf, mais de ouf. Je joue dans des caves de 100 personnes d'habitude.
Surtout prévenu la veille pour le lendemain.
Ouais, c'était dingue, je le connaissais pas, il m'a écrit sur Instagram.
Chaud.
Il est franchement, c'était génial.
Chaud. Très bien.
Joey
Star, notre invité pour la route de la soif. Mais d'abord en musique.
Il faut que t'aies les lèvres humidifiées et plus de salive dans la bouche quand tu fais.
Pas faire la jument non plus.
Entraîne-toi en faisant ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Ça me rappelle.
Ouais, ça te rappelle un truc. En 89.
C'était en 89.
Ouais, vous écoutiez.
C'est mes choix.
Beastie Boys.
Ouais.
Avec Brass Monkey.
Ah bah c'est très éthylique hein, tout ça.
Vous réécoutez ça d'ailleurs, vous voyez où?
Quand je... ouais, j'ai plusieurs émissions là-dessus, mais pour le concert qui était parti en couille au Rex, où les mecs avaient... Enfin on avait tout cassé, par exemple. Bon, c'est pas l'idée de ça, mais... Surtout en train de galérer, faire beaucoup de kilomètres à pied, en train de traverser Paris de long en large pour faire des graffitis avec Cool Chain et autres. On était une armée, quoi. On marchait soit dans les catacombes, soit dans les couloirs de métro, soit dans les égouts, soit sur les toits. Et on écoutait ce genre de conneries, quoi.
Et 89, c'est la création d'NTM. C'est justement l'été 89, je crois. C'est ce que vous vous racontez.
Alors, si
à peu
vous
près
le dites, je vous crois.
Ah, c'est vrai, vous n'avez pas de ce souvenir précis.
Mais la chronologie, voilà.
Quel souvenir, justement, vous gardez de la création d'NTM? Les tout débuts.
Il faut savoir qu'au départ, NTM, NTM, c'est un truc qui est né un peu, toujours un truc éthylique. Nous sommes français, nous, madame. Voilà. Et faut savoir qu'il y avait Vincent Cassel, il y avait Mathias Cassel, il y avait, enfin, on était un truc un peu de banlieusard et des branchés de l'époque, quoi. Voilà, quoi. Et après, c'est devenu un vrai truc où il y a les 93 MC qui se faisaient appeler les 93 Mon Cul, voilà, ou Mafia Crew, allez. tac, et eux étaient légion, quoi. Ils étaient au moins, je sais pas, une trentaine de personnes. Et là, on a commencé à sévir pour de vrai, quoi.
Et votre première radio? Première fois où NTM.
Je crois que c'était Radio Nova, un truc dans le genre. Ouais. On arrivait, on disait à tout le monde, barrez-vous. barrez-vous, les pros sont là. Je crois qu'on était vraiment dans la dynamique où, comme dit Cool Chain, quand on n'a pas grand-chose, représenter les siens, c'est déjà quelque chose.
Ouais, ouais.
Donc on était, je crois, parmi les premiers à dire 93 et machin. Les autres, vous êtes tous des tarlouses. Truc intelligent, quoi.
Et le premier contact avec la maison de disques, une maison de disques, les premières
je crois
approches.
Le vrai premier, c'est un mec qui s'appelait Ascoli à l'époque, qui avait signé Solar avec qui on a fait rendez-vous et il nous a dit un truc super bien. On n'a pas du tout envie de lui décrocher la tête avec les dents. Il nous a dit alors c'est bien tout ça, mais il faut vraiment quelqu'un pour vous écrire les textes. Et là, j'ai dit, tiens, donne la cassette, parce qu'à l'époque des cassettes, donne la cassette avant que je te torde le cou, et on est parti. Voilà, ça a été notre tout premier contact.
Et quand vous vous réécoutez là, qu'est-ce que...
Ah, j'ai une voix de merlu. On dirait que j'ai les yeux dans les coins quand je chante.
Non, quand pourtant, je... il y a déjà les bases.
Ah non, mais on avait le mort, hein, c'est sûr. Tu sais, nous, on arrivait du graffiti, de la danse. On avait une conception très rock et punk de tout ça, quoi. C'est pour nous, on était en confrontation avec tout le monde. On était seul contre le monde entier. Donc, forcément, l'écriture, ça sort sans. Et même dans l'ego trip, on était dans le constat d'urgence. On avait besoin de le mettre dans la gueule, quoi. De se le foutre dans la gueule et on se le foutait dans la gueule entre nous aussi, quoi. Donc, voilà.
Et le nom du groupe Nique Ta Mère avait fait longtemps une forme de polémique. Et je crois qu'au début, les médias n'employaient pas. Ils disaient pas Nique Ta Mère, ils disaient quoi?
Ils éternuaient. Non, il y avait quelques... Non, il y a eu un mec qui a voulu nous faire faire... Un promoteur qui a voulu nous faire faire des dates et qui avait écrit « Le Nord transmet le message ».
Le Nord transmet le message.
Mais il l'a senti, hein, le gars.
C'est-à-dire
Il a reçu
tout. Non, il n'a pas reçu, mais... Enfin, voilà, quoi. Il a fait ses dates tout seul, quoi. Enfin, voilà, mais tout ça pour dire... Non, mais c'est vrai que... Alors, il y avait deux camps. Il y avait les gens qui disaient ça fait du bien quand même d'aller à la télé ou d'être sur les grandes ondes et de pouvoir dire nique ta mère. Ça, c'est les mecs,
c'est des fouloirs.
Et t'en as d'autres, effectivement. Enfin voilà quoi. Mais en même temps, faut quand même aussi comprendre que au départ, c'était une époque où il n'y avait pas vraiment d'émissions musicales à proprement dit. Donc du coup, on se retrouvait qu'avec à faire des débats avec des syndicats de police pour vendre un disque, tu vois, en tapant nique ta mère, t'as une tête de mazouté tout de suite, tu vois.
En 95. Elle vous dit en 95 avec ce titre, ma vie change.
Alors pourquoi elle change? Je sais pas pourquoi. Et pourquoi j'ai dit ça?
Vous racontez que tout d'un coup vous rentrez partout, qu'on voilà. Vous trouve élégant.
J'ai raconté un truc comme ça. Non mais c'est à dire qu'on en est au troisième album quand même. Donc voilà, on est là et puis.
T'as reconnaissance.
Je pense, comme je disais, non mais quand tu t'appelles Nique Ta Mère, voilà, tu passes pas inaperçu. Tu vois, les gens regardent. Après, tu vois, les gens aiment ou n'aiment pas. Mais voilà, donc à un moment donné, ouais. Mais les mêmes endroits où on me disait non. Et vous avez vu comment vous êtes habillé. Ou en même temps, vous avez aucun effort. Ouais. On allait faire des graffitis. On sortait du terrain vague. On arrivait comme on était, quoi. Je dis mais c'est qu'une boîte ton truc. Tu vois, c'est pas un concours d'élégance. Et voilà. Et après coup, je sais pas. Ouais, y a un truc à changer, quoi. Et on est aussi tombé dans l'année Black is Beautiful, tu sais, c'est passé plein de trucs entre temps, ça vient pas que de nous, quoi.
Bah, c'est un tout, ouais, c'est un tout.
C'est d'un seul coup, la France s'est réveillée un peu aussi, peut-être.
En 2010, c'est le cinéma. Monsieur Rhymes avec Give Me Some More, la musique évolue aussi un tout petit peu, elle est plus vraiment comme elle.
Je crois que déjà on n'est plus dans ce truc où, tu sais, nous on est arrivé à une époque où on disait ouais, la variété, tac, et puis à un moment donné, il y a plein de. Comment dire, la musique se. Je pense qu'on a apporté d'un côté. Tu vois, moi, la première fois que je suis allé voir les Stones et que j'ai vu que les mecs avaient je sais pas combien de caissons sub-bass, je sais d'où ça vient ça. Ouais, et à l'inverse. Donc à un moment donné, il y a une espèce de truc de fusion qui se fait à tous les niveaux, quoi. Et que
chaque musique prend de l'influence de l'autre.
C'est que nous, quand on ça, bien sûr. Mm. Et nous, quand on a signé en maison de disque, c'était une époque où on disait ouais, mais faire des refrains, c'est commercial. Comment ça Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a eu la pédagogie de nous expliquer un truc. C'est de la musique, mec. Tu sais, faut que les gens, voilà, tout ça. Donc je pense qu'à un moment donné,
il peut y avoir des gimmicks sans avoir de refrain.
Ah ouais, non, mais nous à l'époque, on te disait quoi, ouais. De quoi tu parles.
Ouais, c'était radical.
Voilà,
ouais.
On était comme ça, quoi. Pour nous, faire du rap, c'était un couplet pendant 3 minutes, quoi. Là, le truc, mais moi aujourd'hui, tu me fais ça,
ça passe plus.
Ah non, je fais une crise de tachycardie, un truc.
Il y a beaucoup de vannes dans le doc sur Maître Gims.
C'est vrai.
Dès qu'il y a un noir,
le doc a des vannes sur Maître Gims.
Ouais, dès qu'il y a un noir avec une casquette et des lunettes, vous l'avez compris.
T'es un mec bizarre, tu veux dire?
Ouais, c'est ça.
C'est pas parce que t'es noir et que t'as une casquette et des lunettes que t'es bizarre, je comprends pas ce que tu veux dire. C'est qu'on rencontre dites. Quelqu'un un peu pompe à vélo, tu veux dire. Et pourquoi un noir tout de suite?
C'est vous?
Il n'y a pas que des noirs dans ce doc.
Non, il y a un Algérien, il y en a qu'un. Donc...
Ouais, lui, je peux pas l'appeler comme ça, lui. Non, je sais pas, ouais, bah, bon, on est taquin, voilà. Est-ce que c'est important?
Non, c'est pas important, c'est drôle.
Voilà. En tout cas, on voulait évoquer ces années-là pour le cinéma. 2010-2012, c'est le bal des actrices, c'est Police, 2 nominations au César, et tout d'un coup, une découverte pour le grand public. Joey Starr, comédien, Joey Starr hyper
émouvant. Oui, les gens n'ont plus cette gêne de venir me dire, mais finalement, t'es intelligent, ouais. Finalement, t'es pas un connard. Ouais, d'un seul coup,
ils sont pas allés jusque-là, quand même.
Non, mais
vous montrez une sensibilité dans les films.
Je te promets qu'au niveau manque de délicatesse, voilà. Et c'est passé, après les heures ouvrables, les gens sont d'une autre manière.
Et hein. C'est blessant pour vous, c'est blessant, ça, entendre ça à cette époque-là, ou pas?
Non, mais tu sais, moi, je fais des choses pour moi, donc du coup, à un moment donné... C'est-à-dire que déjà, je crois que je sais toujours pas recevoir les compliments, les trucs comme ça. Et donc, du coup...
Être bon acteur, c'est quelque chose qui a sauté aux yeux de pas mal de personnes et qui n'était pas forcément visible avant. Parce qu'il faut un bon film, il faut un bon scénar, une bonne réalisation.
Exactement, ouais. C'est un sport d'équipe, il n'y a pas de souci. Hein. C'est comme faire un bon album, c'est comme faire une bonne tournée. Moi, j'ai toujours bossé comme ça.
Les étoiles étaient bien alignées quand ça s'est passé pour le bal des actrices.
Ah, je ne connais pas ces gens, mais... Les étoiles. les étoiles étaient bien alignées. Ouais, aussi, je pense que. Bah, de toute façon, je pense que Maïwenn, elle a parmi toutes ses cordes, elle a ce don au niveau du casting.
L'instinct,
ça marche, quoi. Ouais.
Et qu'est-ce qui fait que vous n'acceptez pas facilement les compliments, alors?
Bah, je pense que ça doit venir de mon adolescence, de mon enfance. On était élevé par un ogre. Donc, quand il te complimentait, c'est qu'il allait se passer un truc derrière. Mmh. C'était une feinte.
Pourtant,
non, je rigole, mais je sais pas.
Ouais, avec tous les succès que vous avez eus, on a parlé de Paris sous les bombes, plus de 500 000 exemplaires. Enfin, c'est des chiffres qui donnent complètement le tournis aujourd'hui dans l'industrie du disque.
Qui sont plus possibles.
Ouais, on parle des Césars, on parle de ces films comme ça, grand public. Est-ce qu'à un moment, on se dit, bon, peut-être que si je suis là, c'est que je suis bien?
Bah, j'ai des moments comme ça. Par exemple, j'ai une... Par rapport au cinéma, la dernière fois que je me suis dit ça, c'est quand Police était à Cannes et qu'on a eu le prix du jury et que le président du jury, c'est Bob De Niro. Je me dis, merde, il se passe un truc, là. Là, il se passe un truc, là. Mm-hmm. Tu vois ? Voilà, mais j'ai des petites choses comme ça, mais en fait, je m'attache plus à, je sais pas... Là, on est parti en tournée avec NTM, on n'a pas sorti de disque. En général, quand tu fais un revival, entre guillemets, comme ça, moi, tu mets un disque sur le feu, bon, moi, nous, on n'a pas envie... La dernière date qu'on a faite, on l'a faite à la fête de l'UMA. La jauge, elle était de 80 000, on a fait 110 000, quoi. Voilà, on a toujours ces petits rappels-là et puis c'est pas grave, de toute façon, on est toujours sur le pont, on est toujours au garde à vous. On n'irait pas déjà si on sent que la magie, elle y est plus, là. Bruno comme moi, on n'est pas du genre à aller se traîner l'un l'autre. Je crois qu'on est de plus en plus insupportables, les deux. Donc, de fait, je pense qu'à un moment donné, non, ce serait trop.
Vous avez annoncé un nouvel album pour 2019?
Ah non, c'est BFM qui a fait ça.
C'est faux, donc? Ok. Voilà.
Et le bouchon au péage de Mâcon, c'est des conneries aussi, ce qu'ils ont dit ou pas?
Et le biopic sur NTM?
Le biopic sur NTM, il est en chemin. On en est au casting.
Audrey Strougo.
Ouais. C'est Audrey qui est venue me proposer ça il y a un peu plus d'un an. Et on est dessus, ça avance très bien. On a trouvé les deux protagonistes et franchement, ça le fait grave, quoi. C'est-à-dire que elle s'est permis de m'envoyer des images où elle a repris toute l'imagerie du clip authentique avec les deux petits mecs et tout. Et c'est assez impressionnant.
Et ça le fait.
Ouais, ça le fait grave.
Bon. Revenons à cette route de la soif.
Et en plus, les mecs sont bons acteurs. Enfin, en plus, parce que c'est pas que ça, quoi. C'est pas c'est pas qu'un boulot de mimétisme.
C'est pas que le mimétisme.
Voilà, il y a un vrai boulot d'acting et surtout autre chose. C'est arriver à faire passer parce que, comme on l'a toujours dit, nous, on se rendait pas compte de ce qu'on faisait, de ce qui nous arrivait et ainsi de suite. Tu vois, donc pour nous, on est dans une normalité et l'inscrire un peu la porter de manière à ce que ça rende le truc intéressant, quoi. Donc voilà, donc il y a ça, cet exercice-là est pas mal aussi.
À partir de ce soir sur Viceland, qui est la chaîne 83 sur Canal, sur le décodeur Canal, d'après ce qu'on m'a expliqué, la route de la soif.
Moi, je sais pas où elle est.
La route de la soif, saison 2, avec donc ce que l'on a expliqué tout à l'heure, à la fois la visite du pays, presque d'un point de vue touristique, mais la malice d'aller voir aussi ce qui se passe derrière, aussi le plaisir de goûter ou de découvrir, en tout cas ce rhum, la manière dont il est fabriqué.
Et le plaisir d'être vivant.
Ouais, c'est ça. Oui, il y a un côté carpe diem. C'est vrai, non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. On a demandé à notre
service du jour.
Mais oui, Pierre Singaravelou. Je prenais mon élan avant d'écorcher votre nom, pardon. Vous êtes historien français, spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation. Auteur avec Sylvain Vénère, le bien nommé, de l'histoire du monde au 19e siècle chez Fayard. Et vous avez participé au Grand Atlas des empires coloniaux aux éditions Autrement. L'histoire du Rhum, justement, c'est lié à l'histoire de la colonisation?
Oui, c'est très lié à l'histoire de la colonisation, puisque en fait, alors d'abord c'est lié à l'histoire de la mondialisation, puisque pour faire du rhum, il faut de la canne à sucre, et la canne, c'est pas apparu aux Antilles, mais à l'autre bout du monde, en Asie du Sud-Est, il y a très longtemps, et donc progressivement, la canne s'est diffusée dans le reste du monde jusqu'en Europe à partir du Xe siècle. On commence à consommer du sucre, et puis c'est Christophe Colomb qui, le premier, va débarquer à Hispaniola, c'est-à-dire aujourd'hui Haïti, avec un plan de canne à sucre en 1493, et à partir de là, à partir du XVIe siècle, on va commencer à produire du sucre, ensuite du rhum, et pour produire ce sucre, parce qu'en fait la canne à sucre c'est une forme d'agriculture qui est dévoreuse d'hommes, on a besoin de beaucoup de main d'œuvre pas chère, et en plus résistante, et donc à partir de ce moment-là, à partir du XVIe siècle, il va falloir aller chercher des captifs, des travailleurs, en l'occurrence des esclaves, sur le continent africain, notamment autour du golfe de Guinée, et puis les transférer massivement vers les Amériques. Et donc c'est vraiment la canne à sucre, et accessoirement la production de rhum, qui va être à l'origine de véritables nouveaux empires coloniaux dans les Amériques, qui va être à l'origine d'une nouvelle société, la société de plantation, ça c'est tout nouveau, avec évidemment ces esclaves dans les habitations, la création de nouvelles élites créoles, de blancs qui s'installent et qui font fortune dans les Amériques. Et puis de nouveaux goûts alimentaires, parce que si les Européens n'étaient pas devenus fans du sucre, très rapidement, le sucre qui se démocratise à partir du XVIe siècle, il n'y aurait pas eu toute cette histoire.
Le sucre est une drogue, on va le rappeler, parce qu'une fois qu'on commence à en prendre, on a envie d'en reprendre derrière. Qui sont les colons, justement, qui exploitent les locaux?
Les colons, ils sont très d'origine très diverse, en fait. Il y a des cadets, des familles aristocratiques européennes. Il y a des aventuriers, il y a des gens plus modestes qui viennent chercher fortune dans les Amériques et aux Antilles notamment. Et puis très rapidement, donc on leur confie des terres, ils vont pouvoir en acquérir, ils vont concentrer cette fortune assez rapidement au point qu'aujourd'hui, les descendants des grands planteurs en Martinique, par exemple, qu'on appelle les béquets, c'est quoi? C'est 1% de la population qui concentre une grande partie du foncier sur place. Et donc ils ont des origines sociales diverses, mais il se trouve que ça ils constituent assez rapidement une sorte de caste économique qui vit totalement de façon séparée du reste de la population, au point qu'au XVIIIe siècle, les enfants des colons, des riches colons, on les envoie en métropole, en France, en Grande-Bretagne, pour qu'ils apprennent la culture métropolitaine, européenne, etc.
Non mais on se rend bien compte que les colonies, heureusement, ça fait partie du passé, mais il y a des traces. Voilà, ouais. Il y a des traces qui continuent de résonner aujourd'hui encore.
Quand vous parlez des béquets, on parle de la terre. On parle pas de réparation financière en lien avec l'esclavage, mais ça veut dire que s'ils possèdent toutes les terres, à un moment, ça pose aussi problème pour le développement économique du reste de la population.
Ouais, alors justement, cette histoire coloniale, elle est indispensable pour comprendre. Ça a été dit tout à l'heure, la situation actuelle des Antilles et plus largement en fait dans un grand nombre de pays dans le monde. Là, en l'occurrence, en allant aux Antilles, on s'aperçoit que, eh bien, les cultures créoles, la langue, évidemment, que ce soit un créole à base lexicale français ou anglais, est omniprésent. La musique, on en a parlé, les différentes musiques antillaises, mais aussi les pratiques culinaires. Enfin, on a remplacé les esclaves sur place par des travailleurs indiens, massivement, aux Antilles françaises, par exemple. Bon, bah, le Colombo, la tradition du Colombo en Guadeloupe, elle est issue de cette mondialisation culturelle post-esclavagisme. Et c'est vrai que, comme vous le dites, les structures foncières sont encore marquées par cette grande propriété des béquets en Martinique, des héritiers, des planteurs en Guadeloupe.
Oui, puis ils sont adoubés aussi. Enfin, ils sont obligés de rendre des comptes à l'Angleterre, par exemple, pour prendre l'exemple. Ce sont les Bahamas qui sont indépendants, quelle que soit la décision, ou même quand je ne sais plus qui prête serment dans le doc, le président, il est obligé de prêter serment à la reine d'Angleterre.
Pardon. Oui, par les Commonwealth.
Voilà, c'est ça. Donc il y a toujours cette espèce de dépendance. On se demande si c'est une fausse décolonisation qui s'est passée parce qu'ils sont.
Alors, il faut dire quand même que la décolonisation dans le monde, elle a pu être très brutale, violente, se traduire par des guerres. On le sait notamment dans les colonies où il y avait beaucoup de colons établis depuis longtemps. Donc, on connaît bien en France l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire de la guerre au Kenya.
Non, on la connaît pas bien, c'est ça le problème.
Pour les Britanniques. Il faut continuer ce travail de pédagogie sur ce passé-là. Mais aux Antilles, tout de même, la particularité, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre d'indépendance, à l'exception de Haïti, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 1802, lorsque Napoléon rétablit l'esclavage, alors que les esclaves d'Haïti avaient conquis l'émancipation dès 1793. On oublie de dire qu'en fait, les esclaves se sont rebellés, ont imposé aux révolutionnaires français l'abolition de l'esclavage dans tout l'Empire en 1794. Donc Napoléon va contre cela en 1802, et ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui vont parvenir à vaincre les forces napoléoniennes et à instaurer la République, la première République noire. Donc ça, c'est la seule guerre d'indépendance. Sinon, Joey Starr vient de l'indiquer, la plupart du temps, la décolonisation, elle est négociée et donc les anciennes possessions britanniques, elles vont s'inscrire dans le Commonwealth et donc continuer à négocier avec la métropole dans une forme d'entente, disons, qui fait que le chef de l'État de ces pays-là, c'est la reine d'Angleterre aujourd'hui.
Ah, ils se sont battus pour avoir leur liberté, leur autonomie, leur indépendance, une forme de démocratie, et on le voit dans le doc aussi, il y a une jeunesse qui dit, mais finalement un dictateur, ça serait pas mal.
Oui, alors je crois que là en fait c'est pas tellement une forme d'adhésion, moi je l'interprète plutôt comme en Haïti une forme de fatalisme, parfois de soumission, c'est-à-dire qu'en fait il faut voir que là...
C'est vrai que pardon, dans le doc d'ailleurs elle le dit, ils le disent d'ailleurs tous les deux, je crois que c'est Jimmy Jean-Louis et cette jeune fille disent, il y avait la sécurité, il n'y avait pas des cadavres à tous les coins de rue,
mais ça dépend pour quelle strate aussi
c'est ça, et en fait l'immense majorité de la population, cette paysannerie pauvre, en fait, elle a toujours été exploitée. Elle a été exploitée par les colons blancs avant 1802, 1804. Elle a été ensuite exploitée par les nouvelles élites, les mulâtres, les métis qui ont pris le pouvoir en Haïti. Et ensuite exploitée, évidemment, par le système dictatorial des Duvaliers dans les années 1960-1980. Et aujourd'hui, c'est encore très difficile parce que voilà, il y a le système souffre de corruption, l'aide humanitaire est détournée massivement, etc. Donc en fait.
Ah oui, ce qui est dit sur les ONG aussi à Haïti, c'est chaud, ouais.
Donc ce sont des populations qui souffrent, quelles que soient, si vous voulez, les élites dirigeantes. Voilà, la domination, elle perdure, en fait.
Quand on parle de colonies, là, dans l'actualité, le président
Macron...
Pour moi,
l'effet colonie existe toujours.
Hein, bien sûr. Mais justement, là, dans l'actualité, on parle de la restitution de 26 objets d'art réclamés par le Bénin. On considère que c'est à peine 10%, et même pas, je crois qu'il y a 26 000 objets, même plus. En fait, nos collections des musées parisiens, en fait, sont remplies d'objets spoliés, soit pendant les périodes coloniales, soit à d'autres occasions. Est-ce que ça aussi, c'est un chemin à parcourir pour mettre la fin à cette colonisation?
Ce processus de restitution là, qui est tout à fait récent, puisqu'on vient de remettre un rapport au président vendredi dernier, en fait, ça part d'un constat qui est que l'Afrique est un cas unique dans l'histoire de l'humanité. Elle a été totalement privée de son patrimoine culturel et artistique. C'est pas le cas de l'Asie, c'est pas le cas des Amériques. plus de 90%.
C'est le cas de la Grèce avec l'Angleterre qui...
Non, la Grèce a conservé tout de même une partie de son patrimoine. C'est pourquoi il n'est pas encore question de restituer un certain nombre de fresques et de sculptures qui ont été... Il y en a plein, alors, évidemment au musée du Louvre, au British Museum, etc. Mais là, en l'occurrence, l'Afrique est un cas particulier parce que plus de 90% du patrimoine est en dehors de l'Afrique. Il y a des pays comme le Tchad qui ne possèdent quasiment plus rien dans ses frontières. Et il faut dire aux Français, aux Britanniques qui sont concernés, ou à ceux qui visitent les musées, que la plupart des œuvres qui vont être restituées ne sont pas exposées. Ce sont des milliers d'œuvres qui sont conservées dans les réserves des grands musées. Donc de ce point de vue, si vous voulez, ça sera totalement indolore pour les musées et les concitoyens français qui souhaitent encore, évidemment.
Et puis quand bien même, on devrait vider la moitié d'un musée pour rendre des œuvres qui nous appartiennent pas, on va commencer à pleurer.
Ça fait partie de ce processus de réparation.
Mais rendons la Joconde, merde.
Aux Italiens.
Voilà,
c'est ça. Merci Pierre Sagravelou d'être venu avec nous parler de votre vision et analyse de ces empires coloniaux. Tanguy Pastureau. Bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
La planète va mal.
Oui, elle est dans le même état. La grille des programmes de la chaîne Énergie 12 totalement ravagée. Les émissions de CO2 et de méthane explosent tous les records et en plus là, les banques françaises réinvestissent dans quoi ? Dans le pétrole. Adieu, je vous aimais bien. Enfin, presque tous.
On en parle après les infos de midi. C'est la bande originale avec les lettres au bout des dix. Agnès Hurstel. Tanguy Pastureau, Tom Villa, Daniel Morin et notre invité Joël Starr. Nous parlons de la route de la soif qui commence ce soir sur Viceland avec cette bonne idée de d'aller à la rencontre des êtres humains pour comprendre l'histoire, comprendre ce qu'ils ont vécu, comprendre ce qui se passe, comment ils travaillent, comment ils mangent, comment ils pêchent. Et on sent qu'il y a c'est une forme d'immersion. C'est-à-dire vous essayez même, enfin pas vous, hein, c'est Ramzy qui s'essaye à la pêche.
Faut pas dire
qu'il réussit vraiment.
Je vais chercher des trucs un peu bizarres.
Mais c'est vrai que par exemple se demander comment sont faites les voitures à Cuba. Est-ce qu'elles continueront d'exister ou pas dans encore 50 ans? Est-ce que ce sont des pièces d'origine ou pas? On peut les voir sans se poser ce genre de questions et j'adore cette question de savoir est-ce que ce sont des origines nos ou pas?
Parce que en fait, les carrosseries, oui, en partie, machin. Non, mais il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Fidel Castro, quand il est arrivé, les mecs l'attendaient dans une semaine. Il est arrivé dans l'heure, le mec. Donc ils étaient en train de, comme on est là tous les jours, ils ont tout laissé en plan, quoi. Donc ils ont laissé des bagnoles comme ça. Et voilà, après, comme toujours...
Qui ne pouvait se vendre qu'en pièces détachées, donc il y a eu un...
Voilà, il y a tout ce truc, mais il faut savoir que, donc du coup, on arrive, alors il y a tout ce truc idyllique, les voitures, tout ça, machin, et puis en fait, tout de suite, on remarque, en rentrant dans les voitures, que il y a des sièges baquets, dans une...
le moteur Hyundai, ou
le bruit du moteur, tu vois, on se rend compte de ça. Il y a aussi tout ce truc pour touristes, toute cette filière où tu peux te balader, machin, mais sinon, voilà, ouais.
C'est plein de trucs comme ça, mais... La fabrication du cigare aussi.
En parlant de tourisme, quand je pense aux vacances, à planifier des voyages, je me dis souvent qu'on va visiter des endroits sans vraiment les connaître, parce que
il faut aller au marché.
C'est difficile de sortir des sentiers, etc. Mais là, je trouve que ça me donne envie de voyager parce que non seulement on rencontre des gens, mais on apprend sur le pays. Parce que combien de fois, tous autour de la table, on a été dans des pays, on revient, on est incapable de dire quelque chose sur l'histoire politique, économique du pays. Et je trouve que ça, c'est génial. Ça donne envie.
C'est la force de leur fixeur, de ceux qui leur permettent de rentrer.
De toute façon, ça, c'est
forcément
une consultation.
Et du concept.
Mais moi, par exemple, dans ce que j'ai envie de faire prochainement pour la route de la soif, par exemple, il y a un de mes grands projets.
Il y a déjà les prochaines destinations.
Ouais, on sait ce qu'on a envie de faire. Parmi mes grandes destinations pharaoniques, on va dire, j'aimerais aller voir les bootleggers, les mecs qui font du whisky dans les bois aux États-Unis, qui aiment pas les négros, qui tirent sur les flics, et ainsi de suite. Aller voir des gens comme ça, quoi. Un peu sortir, comme tu disais, sortir de sa zone de confort et aller voir des vraies têtes, quoi, des vrais gens, quoi. Donc là, on en a trouvé. On va y aller, on va les voir.
Vous allez garder votre calme. Hein, vous allez garder votre calme.
Je vais garder mon calme et puis je risque d'y aller avec Bully Lanners. Vous voyez qui est Bully Lanners, tu vois, avec un mec très calme aussi, tu vois. Donc voilà, on va chercher la merde.
C'est génial
parce
que ça sort du côté carte postale. Et je trouve que vous renouvelez le genre.
J'ai pas une gamelle de carte postale.
Ça dépend. Mais oui, c'est vrai parce que j'essaye de voir comment vous acceptez les compliments. Mais vous renouvelez le genre, je trouve, du magazine, un peu à la fois de voyage et de connaissance. Et je trouve ça super.
Merci.
Ça s'appelle La route de la soif. C'est à partir de 22h30 ce soir sur Viceland. Voici Tanguy Pastureau qui m'attrape. Tanguy, les taux de gaz à effet de serre explosent.
Oui, on va droit dans le mur, c'est la fin du monde. Nagui, comme on est foutu, on peut tous dire, vu qu'on va crever, donc j'ai envie de vous. La fin de carrière d'Ayrton Senna à côté de ce que vit la planète, c'est oui, dans sa petite voiture rouge à la con. Alors que chaque jour, on nous bassine avec l'écologie. Moi, je fais pipi dans ma douche pour économiser l'eau. Je fais même pipi dans mes plantes pour les arroser. La fois où avant, j'avais bu de la Red Bull, mon cactus a pris 60 cm en 24 heures. Puis est devenu un baobab. 9 minutes plus tard, il y avait Kirikou en train de grimper dessus. Alors qu'on cesse de nous répéter qu'on joue la survie de l'humanité, on n'en a rien à taper. On continue à vivre comme avant. Mais pas seulement nous, l'industrie aussi, les sociétés, les banques, l'ensemble du système. Limite, on a envie de donner les pleins pouvoirs à Philippe Poutou et lui dire « Vas-y vieux, défonce tout, débranche les centrales. Le soir, on lira Karl Marx à la bougie et on mangera nos peaux mortes. » Parce qu'il faut tout changer. Ce qu'on bouffe déjà, hein, la viande, c'est une hérésie écologique. Je sais, Top Chef, c'est moins spectaculaire avec que des haricots. Mais si Philippe Etchebest frappe avec un gros concombre bio, un candidat pas foutu de cuisiner du boulgour, on garde le côté spectacle. Il faut arrêter de se déplacer en bagnole. Il faisait comment avant ? À cheval ! 3 jours pour faire Paris-Dijon, mais qui a hâte d'arriver à Dijon ? Et puis, fini Amazon, vous recevez chez vous un colis de 30 cm sur 60, vous l'ouvrez, dedans il y a le pauvre coupon que vous avez commandé à un revendeur chinois, le truc est plus petit que le CV de Ramayad. Alors la semaine dernière, l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, a fait bosser les plus grands spécialistes de la météo, hein, Evelyne Delia, ta sœur qui a l'appli Weather Pro, plus une grenouille au fond d'un bocal avec une échelle. Et a sorti les chiffres. Cette année, on a explosé tous les records d'émissions de CO2, mais aussi de méthane. Et ça, c'est pas seulement dû aux vaches qui flatulent en voyant arriver les candidats de l'amour et dans le pré. Ce sont les activités humaines qui en sont responsables. Et pire, on a vu revenir le CFC-11, hein, qui attaque la couche d'ozone. Alors que le trou s'était refermé, là, il va se rouvrir. Je pense qu'on peut mettre un portier devant pour gérer le truc. Hein, dans l'atmosphère, il y a plus de gaz à effet de serre que de nuages. Quand vous prenez l'avion, les mouettes frappent au hublot pour rentrer. Parce que même si vous passez 14 heures sur un Paris-LA à côté d'un mec à l'haleine fétide qui pionce la bouche ouverte, c'est plus sain comme environnement. La dernière fois que la Terre a connu pareille concentration en CO2, c'était il y a 3 millions d'années. Même Gérard Collomb n'était pas né. Hein, et du coup, il faisait 3 degrés de plus et la mer était 20 mètres plus élevée que maintenant. C'est-à-dire qu'au Havre, pour aller dîner chez Mamie Ghislaine, il fallait traverser le boulevard à la nage.
Le seul moyen donc de faire machine arrière, c'est de stopper les énergies fossiles.
Oui, le pétrole, le charbon, tout ce qu'on trouve dans la terre, à part 3-4 zadis qui peuvent continuer à bouffer des vers, c'est fini. On peut dire à Mohamed Ben Salman, le Saoudien, chichou, on n'en a plus rien à foutre de toi. On cesse tout échange commercial. D'ici 2 mois, t'es tellement pauvre que le prochain journaliste que tu trucides, tu seras obligé de lui tailler les veines avec un formulaire de la CAF. Ça veut dire arrêter les voitures à essence. Or, en France, il y a 1 million de travailleurs qui, à la fin du mois, ont 850 euros. Et le salaire moyen, c'est 2000. Donc pour se payer une bagnole électrique, il va falloir séquestrer la mascotte de CTLM en buisson et menacer de lui faire la coupe d'Eddie de Préto à coups de sécateur pour qu'il crache le blé. Et encore, ça c'est rien. Une étude de l'ONG Oxfam, qui certes est anticapitaliste, hein, il déteste l'argent autant que Tex, les blagues juives new-yorkaises sophistiquées impliquant un psychanalyste. Cette enquête dit que les banques françaises ont réduit leur financement dans le solaire et l'éolien en 2018, alors que c'est l'avenir. Si vous branchez un générateur sur les cheveux de Cyril et que ceux-ci se mettent à briller au soleil, on peut alimenter en électricité la moitié de la région PACA. Et au contraire, leurs investissements ont augmenté dans le pétrole, le gaz et le charbon. Pile le contraire de ce qu'il faut faire. Vous invitez un directeur de grande banque à un dîner de cons, le mec devient votre champion sur 10 ans. Une autre ONG, les Amis de la Terre, arrive à la même conclusion. Les banques françaises réinvestissent dans les énergies sales. Hein, or, c'est elles qui ont le bros ouf. À part Carlos Ghosn qui avait plus d'argent que la HSBC, lui c'était Picsou mais avec un slip. Alors les 6 banques paétiques qui s'encurent le de la planète sont donc la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, la BPCE, le Crédit Mutuel et la Banque Postale, donc toutes, hein. Or, nous sommes esclaves des banques. Si je vais à la compta Radio France et que je demande tout en cash pour foutre dans mon cochon et pas faire partie de tout ça, on va me répondre « Ok bébé, t'es talentueux, tu révolutionnes à toi tout seul l'exercice de la chronique, mais c'est non, on n'est plus dans Germinal où les survivants, à la fin de la journée, viennent chercher leurs billets. Or, le problème, c'est que moi, je la vois l'urgence climatique. J'agis, je fais du vélo, ça m'a galbé les fesses. J'ai jamais été aussi gaulé du cul. Dans 4 mois, la famille Kardashian m'adopte. Mais si on est tout seul, tous à se bouger, mais ça va pas être suffisant. enfants. Et dans les banques, les gens qui prennent l'argent et l'investissent, ils ont aussi des enfants. Il me semble pas que le jour de l'embauche, on demande aux gonzes un certificat de vasectomie. Eux aussi devraient réfléchir. Parce que si jamais il y a un dieu là-haut, vous croyez qu'il est content de se farcir l'ensemble des gaz à effet de serre? Et même s'il y a personne, il y a nous en bas. Donc pensez à nous, messieurs, madame des banques.
Merci, Doris Monsieur.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
D'ailleurs, à ce propos, Joey Star, vous, que faites-vous pour la planète?
Qu'est-ce que je fais pour la planète?
Ouais.
Plein de trucs. Je prends l'avion en groupe et on va faire des images. Non, qu'est-ce que je fais? Non, mais je pense que c'est sur un truc quotidien, au niveau de l'eau. Je me rappelle que moi, j'ai été élevé, on allume un robinet, on savonne les mains, et pendant qu'on fait ça, le robinet continue à couler, des petites choses de quotidien. Les lumières, les machins, tac. Il y a des gens qui viennent chez moi encore aujourd'hui qui me disent, mais pourquoi quand on vient chez toi, tu sors d'une pièce, enfin. On n'a pas besoin d'allumer toute la maison, on n'est pas à Versailles déjà ici, vous êtes mignons. Et puis voilà, donc je pense que c'est des petites choses comme ça.
Bien sûr.
Après, je roule en moto, moi, donc je pense que c'est pas mal aussi, c'est peut-être mieux, je sais pas.
Non, mais j'ai rien dit, moi.
Faire du vélo, mais.
Pour garder les fesses, comme Tanguy.
Ouais, mais ça va, moi, je. Ouais. C'est dans les gènes, moi.
C'est vrai que quand on voit dans les embouteillages. Quand on voit dans les embouteillages des voitures, et des grosses voitures avec une seule personne, alors qu'il y a 5 ou 6 places dedans.
Tu parles de toi,
on
là.
On peut se dire que. ma voiture est électrique.
D'accord, mais grand bien te fasse.
On peut se dire que la moto, ouais, consomme moins à la base que ce genre de truc.
Mais après, je dis ça. J'ai une vieille voiture de collection et à mon avis elle doit pas rendre service à la planète, hein. Elle est de 64, donc t'imagines quoi.
Non mais on est tous plein de contradictions, c'est pour
ça. Non, complètement, hein. Moi je dis pas être le premier sur quoi.
C'est pas grave,
ce soit.
Je vais te la racheter, y a pas de souci si ça peut te faire bonne conscience.
J'espère que t'as un bon budget, négro, hein.
C'est quoi comme voiture?
C'est un 230 SL Pagode de 64.
Nagui, t'as des sous ou pas sur toi?
Ça vaut une fortune, à mon avis. Ça vaut une fortune, cette voiture. Justement, à propos des... Il n'y a pas que les voitures à Cuba, il y a aussi... non, d'ailleurs, c'est pas Cuba, c'est en Haïti, la soirée vaudou.
Oui.
Haïti, c'est ça?
Ouais.
Parce que là, c'est aussi un moment particulier. On se demande d'ailleurs s'il y a une croyance ou si c'est simplement une tradition.
Je pense que c'est une continuité culturelle, à mon avis, quoi. Puis après, dès que tu mets des caméras, forcément, t'obtiens pas le truc sur lequel quand on était allé, par exemple, on était allé à la Réunion. À la Réunion, là, on avait assisté à des vrais trucs où les mecs, on sentait bien qu'ils en avaient rien à foutre de notre présence. Par exemple, tu vois. Tu parlais de Cuba tout à l'heure. Malheureusement, on a le gouvernement nous a filé des mecs qui nous accompagnaient, des fixeurs, et qui ont foutu la merde. On n'a pas pu aller filmer de la Santoria, on n'a pas pu aller filmer des vrais trucs, voilà. Donc en Haïti, effectivement, Haïti c'est une vraie terre de vaudou, quoi. Ne serait-ce que par la provenance des gens qui font la composante d'Haïti déjà. Et c'est particulier, quoi. C'est particulier. C'est que moi j'en avais déjà fait. Normalement, ça ne se raconte pas. Enfin, moi, on m'a toujours dit, tu ne racontes pas ce que t'as fait ni ce que t'as vu.
C'est comme des mystères.
Ce genre de truc, quoi. Moi, je suis allé les faire au Bénin, tu vois.
C'est-à-dire que c'est encore
pour
plus...
pas aller en prison, et j'y suis allé quand même, tu vois. Alors, donc, ça se raconte à la fin, parce que c'est drôle. Voilà. Non, mais tout ça pour dire que on avait envie de voir ça pour de vrai. Alors, c'est-à-dire que. Même si au départ tu sens que bon bah y a un petit bacchiche qui est donné, il y a machin, nan, nan, y a quand même ce vrai truc où à un moment donné il y a quelque chose qui transpire pour de vrai, quoi. Et moi je suis athée, mais il y a des choses auxquelles y a des petites choses que j'ai vues et auxquelles je crois par le biais de ce genre de choses, quoi.
Et il y a aussi ce qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, qui est assez choquant, je crois que c'est aux Bahamas, si j'ai bonne mémoire, les colons, justement pour en revenir à cette histoire de décolonisation, qui quittent le territoire et qui disent aux locaux, votre terre est inculte, donc vous ne pouvez rien fabriquer, rien produire, sous-entendu vous devez continuer de nous acheter à nous fruits et légumes que nous allons exporter, donc que vous allez importer, alors que c'est totalement faux et qu'il suffit de travailler.
C'est surtout que les Hollandais ont instigé ça il y a quelques siècles déjà, et que on se demande comment
ils l'ont cru en fait. Ils l'ont cru aussi aux Bahamas, c'est-à-dire qu'ils
l'ont. Franchement, là-dessus, on est resté sur une grosse interrogation parce qu'en fait, après, faut savoir qu'en fait, on allait voir des particuliers qui eux ont des superbes jardins cultivés. Et puis, vous savez dans quel coin du monde on est, quoi. C'est très volcanique, c'est très si, donc c'est impossible qu'on puisse pas cultiver ces terres-là, quoi.
Non, mais il y a même l'un de vos invités qui dit tout pousse aux Bahamas.
Tout pousse là-bas. Ah non, mais vraiment, quoi, tout pousse. Puis ils ont tout, quoi. Ils sont en plein Gulf Stream.
crime, machin, ils se font piller par les Américains.
Donc, enfin, ça, c'est encore la résonance de la.
Bah, pour moi, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que les Américains qui viennent, les pêcheurs américains viennent se servir autour de leurs côtes. Les mecs sont chez eux, quoi. Donc, ça sous-entend que, quoi. Enfin, il y a plein de. Beaucoup de choses très sous-entendues. Ouais. Autant Cuba, c'est encore une autre histoire.
Ils n'arrivent pas à se défaire, quoi.
Ouais, enfin, on les aide pas non plus, hein. Ouais. Voilà, quoi. Parce que les Bahamas, qu'il faut, pour résumer une partie de la situation, on a toute cette lecture idyllique des îles, le nom
paradisiaque,
paradisiaque ouais. À mort. Et en fait, quand tu vas derrière, les mecs ont récupéré les gangs des États-Unis. Donc, au niveau de la drogue, là-bas, ça rigole même pas. C'est ravagé à mort. On allait tourner avec un pasteur machin et au bout d'un moment les mecs étaient là qu'est-ce que vous voulez quoi tu vois voilà donc c'est super gangréné
même au niveau le pasteur qui est un ancien
gang member aussi ouais. Au niveau des obèses ça rigole pas non plus je parle vraiment dans la communauté bahamienne ils ont récupéré tout le résiduel américain ils se le prennent sur la gueule quoi et c'est ce qu'on voit jamais voilà et moi j'avais envie d'aller voir ça en fait voilà.
Daniel Morin, on voit bien en tout cas qu'avec la route de la soif, bah, l'histoire du rhum rejoint celle de la colonisation.
Pas toi.
C'est la petite histoire qui rencontre la grande. On le sait, ouais. C'est important de connaître son passé, son histoire pour mieux comprendre le présent. D'ailleurs, Joey le dit dans le doc. C'est essentiel de transmettre ce qui a fait la grandeur, mais aussi la bassesse de notre histoire.
Non, mais j'en peux plus de vos mièvreries, monsieur Guy. Appelez-moi Bijar, Osarès, filez-moi une baignoire remplie des électrodes rouillées que je vous torture, un espèce de troll d'Alexandrie. Allez, il a achevé en lui soufflant dans le nez ton haleine frelatée. Moitié rhum agricole, moitié pâté de porc. Putain, monsieur Guy, mais vous allez me tuer. J'ai l'impression d'être un Viet qui boit un litre de napalm et qui bouffe sa clope encore allumée. Fermez-la, par pitié, fermez-la. Cousez-vous les lèvres, agrafez-vous la langue, soulevez-vous les ratiches. Coupez vos cordes vocales, agissez, s'il vous plaît. Et en ce qui concerne vos conneries de transmission, j'en crois pas un mot. Ou alors, et ça m'étonnerait fort, ça veut dire que vos enfants sont au courant de votre histoire. De ah votre bon passé dans les services de Moubarak. Ouais. Quand vous torturiez des bébés fennecs dans les prisons du Caire. Ouais. Savent-ils seulement, vos heureux héritiers, qu'aujourd'hui encore vous êtes hyperactifs dans la traite des stagiaires blanches que vous envoyez comme esclaves dans les bordels d'Istanbul, pour les plus belles, et pour les plus moches comme chair à saucisse dans les boucheries serbes? Du coup, c'est vrai, je l'admets, vous avez de l'expérience. Vous êtes aussi performant que la balle d'un sniper croate, vous êtes aussi tranchant que la lame d'une guillotine, vous êtes aussi brillant que le cuir d'une botte de nazi, mais vous êtes aussi con qu'une ceinture d'explosifs sans détonateur. Ce qui s'est passé à Vegas reste à Vegas, ce qui s'est passé pendant l'occupation allemande reste à Vichy. Et en ce qui vous concerne, et en ce qui me concerne, vous croyez que j'ai besoin de transmettre à ma fille pourquoi ma mère est chauve depuis la libération? Et pourquoi je parle allemand quand je m'énerve? Non, bien sûr que non. Comme quoi, une fois encore, mon pauvre monsieur Guy, vous avez dit...
N'importe quoi.
C'est ça.
Merci Daniel Morin.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Vous le dites à un moment donné que c'est avec modération, parce qu'on parle beaucoup du rhum, de la consommation et de boire, mais à consommer avec modération.
Est-ce qu'on précise
Je sais pas.
Qu'est-ce qu'il faut faire avec modération? Parce que moi, je ne fais rien avec modération, donc voilà.
Non, mais que boire.
Mais je ne pense pas être un exemple pour qui que ce soit, donc tout va bien. Et donc.
Mais votre santé, si vous en préoccupez, il y a des moments où.
Ouais, bien sûr. Mais parce que j'ai envie d'aller au bout des choses que j'entreprends et tout ça, donc j'ai envie que ça dure un peu. Je pense que j'ai une. Je suis plutôt privilégié, donc ouais, du coup, j'ai commencé à me préoccuper un peu de ma santé. Non, mais très sérieusement, avec les touffes qu'on se met quand on voyage là, du coup, le reste de l'année, t'es un peu plus calme, quoi. Ah, tu
parce
vois
qu'il faut expliquer quand même que il y a une distillerie, il y a une maison de rhum qui vient vous approvisionner, en milieu d'itinéraire pour être sûr que vous soyez.
On a Barbancourt qui vient tous les trois jours nous apporter une vingtaine de. Mais je suis pas tout seul à envoyer le pâté. Il y a l'équipe avec moi.
Ouais. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans le.
L'image n'est pas floue. C'est extraordinaire.
Non, non, mais attention, c'est du vrai français. Quoi, c'est les gars,
Mais vous avez l'alcool joyeux dans le dos,
ouais, plutôt, ouais. Mais je pense que c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à faire ça, quoi. Parce que je le redis, alors le type qui est venu me proposer de faire ça chez moi,
alors que dans la vie, dans la vie, vous l'avez pas spécialement joyeux, non, parce que
l'alcool,
le rhum, moi je me souviens d'une scène qui nous avait un peu
avec vous
choqué avec une jeune fille qui travaille toujours d'ailleurs sur Taratata,
donc il va me raconter une saloperie là, vas-y,
elle. C'était en fait, c'est votre équipe qui vous avait enlevé votre rhum dans la loge. Votre
et pourquoi vous racontez ça là avec
Mais parce que vous étiez très énervé de ne pas avoir votre rhum et que vous en.
Je pense que tu racontes de la merde. Je peux être très énervé pour plein de trucs, mais bon, j'oblige pas les gens à me. Ça, c'est mon problème, ça.
Je vais être très énervé parce que je pense que je devais être très énervé pour autre chose à mon avis.
En tout cas, c'était votre équipe qui avait fait ça.
D'accord. Et ça... mon équipe, j'ai tous viré depuis.
Non, c'est pour savoir quel alcool vous avez justement. Est-ce qu'il est joyeux, est-ce qu'il peut être nerveux, est-ce qu'il peut être désinhibant.
Non, mais je pense que déjà j'ai déjà ce caractère qui fait que j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Mais je crois que c'est propre à chacun en fait. Ça, c'est tout simplement, et que moi, je fais pas d'effort à ce niveau-là. Quoi, quand quelque chose ou quelqu'un me fait chier.
En tout cas, pour revenir à cette histoire, votre équipe avait pas été cool parce que la pauvre.
Alors c'est moi ou eux qui sont pas cool, faut savoir.
Je sais pas. Alors,
moi, je pense que tu racontes de la merde.
Le résultat, malheureusement, il y avait trop de trucs.
D'accord.
C'est que la pauvre gamine s'était fait.
Moi, le jour où on a fait une télé, tu m'as dit de la merde, alors qu'on était sur un téléthon, je t'ai pas envoyé ma main dans la gueule. Bon, bah, tu vois, comme quoi que j'ai l'alcool cool.
Non, j'ai dit, voyez, vous pouvez être gentil.
Ouais, c'est ça, ouais. Il est mignon, ouais.
Je m'en souviens très bien.
Monsieur Guy, comme dire.
On fait des compliments. En fait, quand on fait des compliments, vous le prenez mal chaque fois.
Ben, pas mal, mais je sais pas quoi faire, ouais. Mais c'est pas très grave, ça n'engage que moi.
Bon, pour en revenir.
Comme dirait Evelyne Thomas, c'est.
Mais voilà. C'est mon choix. deux fois.
Evelyne disparut trop vite.
Bon, et il y en a une autre, scène de rhum fort, entre guillemets, c'est celle, je sais pas, dans des espèces de noix de coco, c'est ça?
Le Coco Loco à Cuba.
C'est celui-là aussi,
avec Osbe.
Moi, j'aimerais voyager avec Joe Star.
Non, tu tiendrais pas,
Attention.
Non, mais remarquez bien, comme je dis, on se met des touffes, mais t'as vu, il n'y a rien qui me, on est, ouais. franchement, moi, tous les jours qu'on passe là-bas, moi, je passe des journées, mais juste, j'en prends plein la gueule, alors écouter les gens, on mange, franchement, c'est idyllique ce qu'on fait en fait.
Ça doit être une super expérience à vivre.
C'est idyllique, et puis surtout, je suis avec une équipe, tout le monde se bagarre pour être là, quoi.
Non mais ça m'étonne.
C'est-à-dire que tout le monde est super motivé.
Il y a une scène qui manque. Il y a une scène qui manque dans les Sea Dogs.
Moi aux toilettes.
Non. C'est lorsque vous mangez les conques, vous mangez la partie aphrodisiaque des conques.
Et voir là, ce qui se passe après.
Il y a un gars qui dit Tonight the Night. Et on sait absolument pas si ça a été efficace ou pas.
Mais parce que ceci n'appartient qu'à nous, c'est hors sujet.
Mais on veut pas le voir, mais au moins savoir.
Ouais. Savoir
si ça a vraiment été aphrodisiaque ou pas. Ou c'est une légende de plus.
À ça, je te répondrai. On se connaît pas assez pour que je réponde à ce genre de question. Fatigue à force, soudain.
Et la musique est présente dans la bande son, mais il y a des percussions qui démarrent. Je m'attendais à ce que vous partiez aussi un tout petit peu dans un flou.
Non, mais on va pas tout mélanger non plus. Enfin, je pense que non, mais moi je préfère.
Il y en a un qui vous a énervé aussi, c'est celui de la pop, la Jung.
Jungkook. Non, c'est pas. Alors énervé. Attends. Mettons-nous d'accord. Juste, on est là, on se taquine les uns les autres, donc on est taquin. Et après, s'énerver, c'est autre chose. Si j'étais énervé, j'arrête tout, quoi. J'arrête le truc et puis je me casse. Voilà. Et ce qui n'est jamais arrivé. Et Julian Jungkook, qui est un artiste, franchement, voilà. Le mec, il vient, il nous sert un truc. On aurait dit que c'était coupé à l'eau, quoi. Et il me regarde comme ça, en me parlant comme si j'étais un touriste. Je dis, mais moi aussi, je suis caribéen, grosse tête.
Non, vous dites, j'ai 50 ans, je vais tenir. Il y a un petit défi avec qui va tenir le plus longtemps. Ouais, c'est ça.
Un truc qui sert strictement à rien, c'est défi de comptoir.
C'est ça.
Je sais plus, je connais plus la suite de la punchline, mais enfin voilà. Ouais. Non, c'est un truc qui sert à rien. Mais
donc, après, c'est non.
Ouais. Mettons-nous d'accord. Énervé, c'est quand on a un vrai coup de sang, et voilà. Et puis après, on est toujours dans une ambiance très taquine, donc on se raconte de la merde, on se toise comme des vrais hommes, et puis voilà. Mais s'énerver, je pense que c'est parce que j'entends souvent ce truc me concernant. Mais vous ne me connaissez pas. Enfin, comme je ne vous connais pas tous autour de la tête, quand on s'énerve, voilà, on fait ça hors champ, quoi.
La route de la soif, c'est à partir de ce soir.
Au bout de presque 30 ans de métier, si je m'énervais comme une crevette devant une caméra, enfin, ça m'est rarement arrivé, quoi.
Non, mais il n'y a pas toujours des raisons de s'énerver non plus, aussi. Là, il y a plein de raisons dans le commentaire pour vous extaser, au contraire. Ouais, il y a des moments très...
Ouais, mais voilà, enfin, le fond de tout ça, c'est de dire qu'on rencontre des gens à qui ça fait... Et puis en plus, qu'on se truc, quand on va voir Jérôme Biel à Marie-Galante, le gars, il est... il a une mère de Pondichéry, un père blanc, machin, il est dans son truc, voilà, tu vois le mec, il pourrait presque être mannequin, tu vois, il est grand, blond, belle bête, machin, et il a une façon de parler de ce qu'il fait, qui est juste magnifique, quoi, le mec, tu le regardes, alors, c'est toujours, bien sûr, agrémenté de petites chambrettes où, mec, on arrive à 10h du matin, il nous fait goûter un truc à 75 bourrins sous le cap, pour 75 degrés, pardon.
Bon, bah, c'est dur de rester calme. Hein.
Tu reprends un croissant derrière. Hein.
Non, après, derrière. Tout le reste, il nous fait. Ouais, si tu veux. Ouais. Hein, tu vas bouffer un bout de canne à sucre et on attend dans le cœur.
Vous continuez Éloquence à l'Assemblée, dont on avait parlé à ce micro et qu'on avait aussi beaucoup aimé. Ça sera. D'abord, il y a
le 21 janvier, là. J'ai fait une date le 23, là, le 23 novembre au Rond-Point. On en remet une le 21 janvier au Rond-Point aussi.
Exact. Après, il y a Mérignac le 29 janvier, le 7 février à Grand-Quevilly. Le 12 février à Biarritz, 13 à Toulouse, 1er mars à Florange, 5 mars à Lille et 9 mars à Châtel-Guyon et donc sur Weissland ce soir, le début de la saison 2 de la route de la Des excuses à présenter, Daniel.
Oh oui, désolé déjà pour Nicolas Demorand, Laura Adler, surtout Léa Salamé, bref, les gros soifards de France Inter qui se sont précipités aux portes du studio pour siffler du rhum. Pas de bol, les amis, Leïla a déjà tout bu. Désolé pour les fans de Ramsey et Joystar, oui, qui nous ont appelés pour commander un bébé né de la nuit torride à Cuba. Alors, a priori.
Je confirme.
A priori, ils l'ont bouffé, mais on a mis les images de la sextape sur Facebook. Le Facebook de l'émission, bien sûr. Et désolé pour ma fille, ma femme, ma mère, après m'avoir traité de connard et avoir dit qu'il ne m'aimait pas. Et en plus, comme Nagui l'a agacé, Joey a décidé de me péter la gueule. Je vous ai aimé. Au revoir.
Adieu. Merci, Joey, d'être venu.
Merci.
Portez-vous bien et bravo pour cette série de doc, La Route de la Soif, ce soir sur Weissland. Demain, José Garcia et Jean-Paul Rouve seront nos invités.
Ah, mon client, ça.
Je vous demande de nous écouter demain, comme dirait
Jean-Paul.
Leïla. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée.